9h29, c'est notre club de lecture. On a quelques propositions à faire. Émilie est avec nous. Ce sont les propositions de l'après-MeToo, finalement.
Oui, oui, des fois, tu regardes.
Il y a un fil conducteur, là.
C'est ça. Tout à coup, il y a une espèce de synchronicité entre les différentes sorties. Je vais commencer avec un roman, en fait, qui s'appelle Des gens irréprochables. C'est de Zoé Whittle. C'est une auteure montréalaise. Donc, c'est la traduction d'un roman qui s'appelle The Best Kind of People, qui était paru en 2016. Donc, c'était avant le MeToo, mais après Gomeshi. Puis bon, on est dans la même.
Okay.
Donc, le même genre de sujet. Sarah Polley a acquis les droits, la réalisatrice, pour en faire une adaptation au cinéma. Donc, des gens irréprochables, ce sont la famille Woodbury. Donc, le père s'appelle George Woodbury. C'est un prof respecté, mais surtout, c'est un héros local parce qu'il a empêché une fusillade à l'école secondaire. Il s'est jeté sur le tireur et il a empêché la catastrophe. Donc, dans sa communauté, c'est le héros. Et 10 ans plus tard, un dimanche soir, la police cogne à la porte. On arrête George. Il aurait abusé d'étudiantes au secondaire. Et là, l'histoire nous est racontée beaucoup du point de vue de sa femme et de sa fille qui ne savent pas s'il est coupable. Et c'est tout ce questionnement-là pendant tout le livre. Et j'avoue qu'il y a même un moment où j'ai failli décrocher parce que ça en est frustrant de ne pas savoir la vérité. Puis en même temps, je trouve que c'est vraiment un point de vue intéressant. C'est-à-dire que George, on l'entend à peine dans ce livre-là. Donc, on ne sait pas s'il le fait ou pas. Mais je vous dis, jusqu'à la toute fin, ça vaut la peine de s'accrocher parce que la fin, elle est assez surprenante. Puis on travaille vraiment, on joue sur nos préjugés. Je trouve que ça a vraiment été un angle intéressant pour approcher ça en fiction. Donc, ça s'appelle « Des gens irréprochables ».
Es-tu tenté d'aller voir rapidement la fin à un moment donné?
Mais
là?
Pour vrai, à un moment donné, je me dis « Pourquoi je continue? Pourquoi je continue? » Puis, c'est-tu quoi? Fallait. C'est ça. Il y a vraiment... Puis
parce
je
que
pas
Fabienne Larouche, qui était ici la semaine dernière, oui, disait qu'elle, quand elle lisait des romans à l'époque, là, elle allait voir la fin pour voir comment l'histoire était construite.
Oui, oui. Non, ça se mérite, moi, je trouve.
OK.
Moi, je fais pas ça. Je suis en première de classe, Paul.
Je sais.
Valide.
Mais des gens irréprochables, c'est pas sûr que ça existe.
Ben exactement. Donc, c'est tout ça. Tu sais, en façade. Et c'est les questions que sa femme a, Joanne, la femme de George, parce qu'elle dit, voyons, toute ma vie, je n'ai rien vu aller. Et ça, c'est...
Bien, ça, c'est le lot de bien des cas, là.
Exactement. Mais la culpabilité de tout ça. Mais est-ce que, aussi, ça veut peut-être dire qu'il est juste innocent? Qui sait? Je vous laisse aller au bout.
Parfait. Alors, tu rappelles juste le titre?
Des gens irréprochables de Zoé Whittle. Donc, c'est la traduction en français.
Et parfois, c'est publié aux éditions de l'Homme.
Oui, la traduction m'a un petit peu tannée par moment parce qu'ils l'ont fait vraiment dans un québécois. Donc, ça se passe comme en Nouvelle-Angleterre, mais là, les gens parlent avec des sacres. Puis ça
marche pas.
Ben, ça m'a un petit peu agacée, mais pour le reste... On peut passer par-dessus.
OK. L'autre livre.
Là, on est dans les essais. Parce que ça, c'est vraiment dans le post-MeToo. Donc, d'abord, la journaliste Robin Doolittle, qui est une journaliste du Globe and Mail, c'est elle qui a gagné le prix Michener en 2017. C'est elle qui avait fait la grande enquête Unfunded, qui avait, en fait, découvert là, qu'une plainte sur 5 pour agression sexuelle était jugée comme non fondée par les policiers. Et elle, elle se pose la question, qu'est-ce qui est... What's fair in the age of MeToo? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que la rédemption, elle est possible pour les hommes qui ont été accusés, mais pour qui ça ne se retrouve pas aux criminels? C'est un essai qui est très nuancé, mais qui a vraiment des bonnes réflexions. Mais il y a un chapitre en particulier que j'ai trouvé très intéressant. C'est le chapitre où elle est allée rencontrer le juge Robin Camp. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2017, lui, c'est un juge de l'Alberta qui avait demandé à une victime d'agression sexuelle pourquoi elle n'avait pas serré les genoux.
Oui, je me souviens.
Et ça avait vraiment fait scandale. Et oui, là, elle est allée s'asseoir avec lui 1 an plus tard, 2 ans plus tard. Il n'est plus juge d'abord, là, mais continue de pratiquer le droit. Et il raconte en fait qu'il a fait une formation sur les mythes et préjugés. Et c'est vraiment un virage à 180 degrés. Il reconnaît complètement son erreur. Il dit « Moi, je pensais que j'étais intelligent. Je pensais que je savais ce qu'était un préjugé. Puis aujourd'hui, je me rends compte que... À l'intérieur, j'avais un instinct dans lequel j'avais des questions qui étaient complètement déplacées, puis je ne m'étais pas rendu compte de ça. J'ai trouvé ça intéressant de voir qu'un juge est capable d'admettre qu'il n'a pas la science infuse. Et lui, il dit, même si on m'avait permis de redevenir juge, je ne veux plus jamais faire ça. Moi, j'ai été jugée sur la place publique et c'est tellement humiliant que, comme humain, je ne serai plus jamais capable de juger une personne.
Et sur la rédemption, elle dit quoi?
C'est difficile.
Après des victimes, là, mettons que, je sais pas, le monsieur X est identifié, ouais, il n'est pas nécessairement accusé.
Il n'y a pas de réponse claire, mais effectivement, tu sais, par exemple, on prend
c'est
le cas...
C'est une sentence à vie ou...
Bien, c'est la question qu'elle pose. Et dans certains cas, quand il y a une vraie reconnaissance des faits, quand il y a de véritables excuses, et le cas de Robin Camp est intéressant pour ça, mais elle prend par exemple l'exemple de Jeanne Gomeshi, qui finalement ne reconnaît pas grand-chose et qui se place un peu encore en victime. Bien, visiblement, lui, ça n'a pas fonctionné. Donc, c'est un essai qui est intéressant, mais qui est très nuancé. Donc, il n'y a pas nécessairement de réponse, je te dirais, dans le livre de Robin Doolittle. Donc, ça s'appelle « Had it It Coming.
Parfait. Troisième livre.
She Said. Donc ouais. Ça, c'est le livre des journalistes du New York Times, Jodi Kantor et Megan Twohey. C'est elles qui ont lancé l'affaire Weinstein. Il y avait également qui a aussi fait l'enquête sur Weinstein. Donc, c'est vraiment toute l'histoire de cette enquête-là, donc du premier appel qu'elles ont fait à Rose McGowan, qui a été la première des victimes officielles à sortir contre Harvey Weinstein. Mais moi, j'ai trouvé ça palpitant comme lecture. Elles ont accès...
C'est un thriller, parce que c'est toute l'histoire. Là. C'est l'histoire des frères Weinstein, on va y revenir. Là, ouais. Mais c'est... je l'ai lu aussi, ce livre-là. Là. Parce qu'on a l'impression qu'on a pratiquement tout entendu, ce qui n'est pas le cas.
Bien, c'est la façon dont l'enquête s'est faite. C'est le temps que ça a pris pour réussir à faire parler toutes ces femmes-là. Et elles sont des dizaines de victimes qui gardaient le secret chacun de leur côté en pensant qu'elles étaient seules. Et comment tu réussis à convaincre ces gens-là de parler? Elles ont même eu accès à un courriel que le frère d'Harvey Weinstein, Bob Weinstein, lui a envoyé à la fin de l'année 2015. Donc, on est avant la sortie des victimes, tout ça. Et dans lequel son frère lui dit, là, tu vas te faire soigner. Ça suffit, là. Notre compagnie ne peut pas continuer de payer
à faire des
ça.
Règlements cours sans arrêt. Là.
Exact. Donc, et elles ont eu accès à ça. Moi, je l'ai écouté en livre audio parce que, bon, c'est en anglais seulement pour l'instant. Donc, si vous avez peut-être moins de facilité à lire en anglais, mais que vous comprenez bien, ça vaut la peine, je trouve, de l'écouter en audio parce que c'est vraiment se faire raconter le film de cette enquête-là. Moi, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment palpitant. She said, qui est une expression qu'on revoit vraiment beaucoup dans les procès pour agression sexuelle. Hein. He said, she said.
Oui, ça, c'est sûr.
C'est l'un contre l'autre, mais leur donne vraiment la parole aux femmes.
Ce qui se passait au sein de leur compagnie, c'est exactement ce qui se passait chez Fox. C'est-à-dire que ça se passait... dans le cas de Fox, il y avait plusieurs personnes, beaucoup de règlements hors cours. Ouais. Mais on réglait, mais on continuait pareil. C'est ça qui est un peu...
C'est complètement scandaleux. Puis de voir la façon dont ils réussissaient, ils faisaient peur à tout le monde. Puis comment ils essayaient de stopper leur enquête. Puis qu'ils travaillaient avec une avocate, Lisa Bloom, qui est la fille de Gloria Allred, qui a travaillé toute sa vie avec des victimes. Et qui là, qui décide de mettre tout son savoir sur les victimes d'agressions sexuelles et de le transmettre à Harvey Weinstein. Puis elle lui explique comment on va faire pour les démolir une par une. C'est complètement surréaliste. Donc ça, c'est mon gros coup de cœur, je vous dirais. She Said. Puis comme je vous dis, en livre audio aussi, ça vaut la peine.
Et un dernier livre?
Bien, tu sais, pour sortir un peu de tout ça, là, parce que c'est bien beau, ce sujet, mais il peut parfois tomber un peu lourd. Souni, c'est de Naomi Fontaine. C'est une auteure innue. Elle a fait Manikanetich, elle a fait Kwasipan auparavant, qui vient tout juste d'être adaptée au cinéma. Et... j'adore cet auteur-là, puis j'ai un peu de difficulté à l'intellectualiser. Pourquoi je l'aime autant? Mais moi, qui barbouille jamais dans mes livres, quand j'ai un livre de Naomi, je me mets à souligner plein de choses parce que c'est comme si elle trouve une façon de nous parler de la réalité innue et de nous le faire comprendre, même si c'est loin de nous. Et Souni, donc, c'est une lettre qu'elle écrit à son amie d'enfance, une amie d'enfance blanche, Julie, qui était la fille du pasteur, et qui a décidé de retourner vers la communauté Ouachat pour devenir missionnaire. Donc, Naomi Fontaine lui écrit sur son peuple pour lui permettre de comprendre qu'est-ce qui se passe là-bas. Et c'est vraiment, elle est en contradiction entre deux cultures, Naomi Fontaine. Donc, elle est d'origine innue, mais elle vit vraiment dans la modernité et elle essaye de concilier les deux, puis on voit que pour elle, c'est comme un déchirement, mais moi, j'ai envie de dire qu'au contraire, c'est une addition, parce que c'est la meilleure personne pour faire le pont entre ces deux réalités-là, puis ça se lit là, vraiment d'un trait, c'est quand même assez court, là. C'est comme
c'est
une lettre, mais si vous avez besoin de beau dans vos vies, puis après tout ce que je viens de vous dire, là,
c'est
je pense
sûr que ça peut replacer un peu les choses.
Ça fait du bien. Alors, ça s'appelle... Souni. Pourquoi Souni? C'est parce que dans la langue innue, les sons J et L n'existent pas. Donc, Julie devient Souni. Et c'est ce nouveau roman de Naomi Fontaine. Puis si vous ne connaissez pas cette auteure-là, je vous invite à aller tout lire ce qu'elle a fait auparavant. C'est toujours très bon.
Et toutes les références seront sur le site web. Alors, si vous vous dites c'était quoi le titre du livre, bien, vous allez retrouver ça facilement sur le web. Merci, Émilie.
Merci pour la tribune.